Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
L'adolescence est une période de bouleversement qui déstabilise et qui bouscule les enfants, mais aussi les parents. Le manque de communication, la revendication de son indépendance, les prises de risques comme l'alcool, le cannabis sont d'autant de comportements normaux pour cet âge, mais qui peuvent entraîner beaucoup d'incompréhension, de la colère, de l'anxiété chez les parents. Alors dans cette émission ce matin, nous nous adressons plus particulièrement à vous, parents qui nous écoutez, mieux comprendre l'adolescence, les changements physiologiques ou psychologiques. Que se passe-t-il pendant cette période plus ou moins longue chez nos ados et quels impacts sur l'adolescence? Comment continuer à communiquer avec nos enfants? Nous en parlons avec notre invité, déjà installé sur le plateau de la radio africaine, le docteur Stéphane Clerget, psychiatre et praticien dans le service de psychiatrie enfantine à l'hôpital de Cergy-Pontoise dans le 95. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes également spécialiste de l'adolescence. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier paru en février 2018 chez Fayard, Les vampires psychiques. Merci de nous rejoindre et d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, l'adolescence, cette période entre enfance et âge adulte, n'est pas facile à vivre pour les ados, mais encore moins pour les parents. L'adolescence, c'est une étape de bouleversement. Alors comment peut-on la définir, cette période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, physiologiquement et psychologiquement? Que se passe-t-il à cette période, docteur?
Bonjour. On peut considérer que l'adolescence commence avec le début de la puberté, c'est-à-dire que ce sont d'abord les transformations corporelles qui inaugurent l'adolescence et les modifications psychologiques, les modifications affectives, les changements de comportement vont être un peu la conséquence de tout ça. Il faut quand même se rendre compte que en quelques années, on double de volume, on double de taille, on se met à avoir des poils qui poussent, des seins qui poussent. C'est un vrai film d'horreur. C'est pas par hasard si les adolescents aiment bien les films d'horreur. Donc il y a une vraie transformation qui peut paraître brutale aux parents qui ne s'y attendent pas vraiment et qui ont l'impression d'avoir chez eux un étranger, une étrangère, parce qu'ils ne reconnaissent plus leur enfant.
Pourtant, les parents sont passés par là.
Et pourtant, effectivement, les parents sont passés par là, mais tout se passe comme s'il y avait une espèce d'oubli, d'amnésie de cette période-là où on garde bien sûr quelques souvenirs. Mais au début de l'adolescence, finalement, il se passe des transformations et l'adolescent n'a pas encore le recul sur ce qui se produit en lui. Il ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Et c'est pour ça que ce n'est pas imprimé dans notre mémoire.
Alors, est-ce que ce ne sont pas également des peurs de la part des parents, peur de perdre un peu cette toute puissance, puisque depuis l'enfance et depuis le plus bas âge, eh bien, on les a accompagnés, on les a surveillés, on les a coucounés. Est-ce que ce n'est pas également une peur de perdre son influence sur ses enfants?
Oui, tout à fait. Et puis, c'est bien naturel. C'est évidemment plus facile si on a plusieurs enfants, parce que quand l'aîné devient adolescent, on se rattrape avec les suivants. Mais c'est vrai que quand c'est le dernier ou quand on n'a qu'un seul enfant, c'est un petit peu plus difficile d'accepter de le perdre. Après, ça dépend des parents. Il y a des parents qui sont clairement plus à l'aise avec les très jeunes enfants, qui aiment bien, comme vous le dites, coucouner, et d'autres qui, au contraire, préfèrent les enfants plus autonomes et préfèrent leur confier des responsabilités. Donc c'est vrai que l'adolescence des enfants est plus ou moins facile selon les parents aussi, il faut bien le dire.
Alors nous nous sommes rendus à un groupe de parole à la Maison des Jeunes d'Aubervilliers pour questionner ces adolescents sur le rapport avec la famille. On les écoute et on se retrouve juste après, docteur.
Moi, à la maison, ça va, je vis plutôt bien. Je m'entends avec tout le monde, donc ça va. C'est plus mes sœurs qui seront toujours là pour m'aider. Si j'ai besoin de me confier, je me confierai plus à elles ou quoi. Ma mère, quand j'ai besoin d'elle, elle est là pour moi aussi.
Tout le monde me saoule, mais vraiment. Les deux petits sont insupportables. Mes parents, je vais faire quelque chose de bien, ils vont rien retenir. C'est que le mal. Bref, c'est compliqué. Ils me saoulent. Si, je me remets en question des fois, hein, mais vraiment. Je sais quand je fais des trucs pas bien et je sais quand je fais des trucs bien. Mais bon, après, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Hein.
Et des fois, ma mère, elle veut même pas que je sorte des fois. Enfin, elle me dit, tu vas où tout le temps me poser des questions. Mais je lui réponds après, elle me dit, vas-y. Oui, ma mère, elle est trop carrée. C'est-à-dire, je dois toujours lui donner des bonnes explications, tout ça. Comme ça, elle est sûre où je vais, tout ça. Elle est toujours là pour m'écouter, mais sur certains sujets, je sais très bien que je ne vais pas trop lui poser des questions.
l'école avait des répercussions chez moi après, parce que j'étais énervée ou j'étais toute triste. Et ça veut dire qu'après, ça a fait un caractère. Ma mère, ça attendait pas en fait. Elle s'est dit, dès que t'es au collège, t'as changé, hein. Non. Et tout. C'est-à-dire, quand ça brille, genre, moi, je m'énervais plus, alors qu'elle va dire, elle pouvait me dire un truc, je pouvais me braquer, etc. Donc après, en fait, ça m'a fait un caractère un peu de cochon, comme elle dit.
Alors, vos réactions, docteur ?
Déjà, je trouve ce reportage, bien que bref, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on voit combien, finalement, pour les adolescents, les relations avec les parents sont aussi importantes que. On a l'impression que les adolescents nous aiment plus, s'opposent à nous. Et en fait, quand on les écoute, ils restent très attachés aux parents. Et c'est vrai qu'ils ont l'impression qu'on leur fait tout le temps des critiques et ils ont pas tort. Parce que c'est vrai que vu leur comportement, on n'a pas tellement envie de leur faire des compliments. Et pourtant, c'est quand même important d'en trouver pour renforcer leur confiance en eux. Donc oui, bien sûr, aux critiques s'ils se conduisent mal. Mais cherchez bien quand même pour trouver aussi des compliments. D'ailleurs, ils écouteront mieux les critiques si, à côté, on leur fait des compliments.
Ouais.
On voit que l'école, c'est important, hein, c'est un sujet de conflit. On voit aussi que la question de la liberté, les nouveaux droits, pouvoir sortir, c'est un sujet aussi important. Mais ce que je retiens quand même, c'est que c'est important pour les parents de garder le contact. Le pire, c'est finalement ces parents qui laissent les adolescents pousser tout seuls. Parce que même si les ados se plaignent qu'on est toujours sur leur dos, quand on ne s'occupe pas du tout d'eux, c'est encore plus dur et ils en souffrent encore plus.
Alors, on a entendu beaucoup de filles, hein, d'ailleurs, principalement, ce sont des jeunes filles. Et c'est vrai que nous, dans nos cultures africaines, on a tendance à mettre un petit peu plus de pression à nos filles qu'à nos garçons.
Oui, et pour des raisons qu'on comprend bien aussi, hein, qui peuvent aussi avoir avec les relations amoureuses ou autres. Et puis peut-être sur la priori qu'effectivement les filles, elles peuvent être plus fragiles, plus menacées que les garçons. Mais c'est pas forcément un handicap pour ces filles. Peut-être que d'avoir les parents derrière elles, finalement, c'est pas si mal que ça. Parce que on voit aussi que, par exemple, les filles à l'adolescence, par exemple, réussissent mieux à l'école. Et c'est peut-être aussi parce qu'on est justement derrière elles. Donc, je ne vais pas me faire que des amis parmi les adolescentes, mais je pense que
c'est une réalité. Elles s'accomplissent plus facilement et mieux à l'âge adulte, ces filles.
Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Et je pense que ça a à voir avec le fait qu'effectivement, on continue de les accompagner. Alors, il ne s'agit pas évidemment forcément de trop serrer la vis s'il n'y a pas de raison. Mais je pense qu'à l'adolescent, ils ont encore besoin des parents. Et peut-être que les garçons, il faudrait peut-être être aussi un petit peu plus derrière, finalement.
Alors justement, quelles sont les conséquences sur les adolescents de ne pas se sentir soutenus par la famille ?
Eh bien, dans ce cas-là, ils se sentent effectivement abandonnés. Ils ont l'impression de pas vraiment compter. Alors déjà qu'à cet âge-là, comme on est quelqu'un de nouveau, on n'est pas forcément très sûr de soi. Donc si on ne se sent pas soutenu par sa famille, on a l'impression qu'il y a une vraie rupture avec l'enfant qu'on a été. Et c'est vrai que les parents sont, entre guillemets, les dépositaires de l'enfant qu'on était. Et c'est rassurant de savoir qu'ils sont encore là. C'est parfois même un peu rassurant de voir qu'ils nous traitent un peu comme des petits, finalement. Les ados s'en plaignent, mais ça les rassure quand même. Et c'est vrai, si les parents laissent tomber les adolescents en considérant qu'ils sont assez grands pour se débrouiller ou parce qu'ils sont eux-mêmes en difficulté, eh bien, l'adolescent peut être un peu livré à lui-même et va chercher d'autres tuteurs, d'autres personnes auxquelles s'identifier. Et c'est parfois pas toujours de bons exemples. Donc, c'est important de rester derrière. Et puis, si nous-mêmes, on ne se sent pas à la hauteur parce qu'on est fatigué, déprimé, eh bien, trouver dans notre entourage familial ou amical d'autres personnes qui pourraient peut-être prendre notre relais.
Une tata, une cousine, un cousin.
Tout à fait. C'est important. Et alors, les ados qui ont une famille nombreuse, qui ont des grands frères, des grandes sœurs, en général, s'en tirent mieux que les autres parce que ils ont plus de modèles, plus de soutien, évidemment.
Lorsqu'on grandit dans une famille nombreuse, les parents ont moins de temps à consacrer à chaque enfant.
C'est vrai, mais l'avantage, c'est qu'ils sont aidés, relayés par les grands frères et les grandes sœurs. Donc, c'est pas finalement, le résultat est plutôt bon. Ouais. Et c'est vrai qu'on a moins de temps à leur consacrer, mais du coup, quand on leur consacre du temps, c'est que pour le meilleur, c'est que pour les choses essentielles. Et j'allais dire, on ne perd pas de temps non plus à être sur leur dos pour rien.
Alors, il y a également ce phénomène, la structure familiale a évolué hein, ces dernières années entre les familles recomposées, les familles monoparentales. Est-ce que ces nouvelles structures fragilisent les liens avec nos ados ?
Alors, parmi les facteurs de fragilisation, ce que j'observe le plus souvent, c'est quand même, malheureusement, une absence du papa. C'est-à-dire que quand il y a des séparations, c'est en général la maman qui a charge de la famille, le papa peut financer, mais il n'est pas assez présent physiquement. C'est dommage pour les filles, c'est encore plus dommage pour les garçons qui, à cet âge-là, évidemment, vont du côté du père, cherchent un modèle et parfois se conduisent un peu comme les petits coqs à la maison. Et ça, c'est pas bon, parce que s'ils font les petits coqs à la maison, ils vont considérer qu'ils n'ont plus rien à apprendre et ils vont, par exemple, délaisser l'école. Donc, si j'avais un message à lancer, c'est que c'est pas parce qu'on se sépare qu'on doit renoncer à sa fonction de père. Et elle est absolument indispensable à l'adolescence. L'éducation n'est pas terminée. C'est pas seulement pour les cadrer, c'est pas seulement pour leur dire le bien et le mal, bien sûr. Mais ça, les mères le font très bien. C'est vraiment pour être présent, servir de modèle, les rassurer, les écouter, faire des activités avec eux. Donc, à mon avis, le point problématique essentiel, il est là. Bien sûr, il y a les conflits avec les éventuels beaux-parents, la belle-mère, le beau-père. Mais ça, c'est pas si embêtant pour les ados. Ça les fait pas tant souffrir. Et puis, parfois, vaut mieux que soient les beaux-parents qui prennent les coups, comme ça, ça protège un peu les parents. On rend les beaux-parents responsables et comme ça, on garde une bonne image des parents. Donc le vrai souci, il n'est pas là. Il est vraiment dans la continuité de la présence et malheureusement, la présence du papa n'est pas assez efficiente quand les parents se séparent aujourd'hui.
Alors il y a également un autre phénomène, les nouvelles technologies, le portable qui prend de plus en plus de place dans la vie de nos adolescents. Il y a souvent des conflits entre les parents et les adolescents, puisque les parents trouvent qu'ils passent trop de temps et qu'ils se coupent en fait de la vie familiale.
Oui, vous avez raison, c'est un point important. Et les parents ont raison. C'est vrai que les ados passent trop de temps, mais les parents aussi passent parfois trop de temps sur leur portable. Donc, il faut qu'on apprenne aussi un peu à réguler ça. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. C'est une vraie addiction. C'est très dur pour l'ado de s'en passer par lui-même. Donc, il ne faut pas compter que l'ado se régule lui-même. Donc là-dessus, il faut être clair, il faut être ferme, il faut vraiment réduire le temps. Le soir, quand on se couche, les parents prennent les portables. Ça, là-dessus, sur ce point-là, il faut être assez strict parce que le portable, ça réduit le temps de sommeil. Et puis, c'est vrai qu'ils ont accès à Internet. Donc, c'est un peu comme si on les laissait traîner dans la rue. Hein. Donc ça, là-dessus, il faut être très, très strict et vraiment limiter un nombre d'heures précis, que ce soit le portable ou l'ordinateur. Et plus on inscrit l'ado dans des activités extérieures, sportives, artistiques ou des rencontres familiales, j'allais dire moins il pourra passer de temps sur ses écrans. Donc un peu de portable, pourquoi pas, mais vraiment, il faut vraiment limiter, surveiller, là, c'est très important.
Alors je vais vous demander de vous munir de votre casque, parce qu'il y a une auditrice qui voulait intervenir. Elle est au téléphone, Madame Cadette. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Africa numéro 1. Nous vous écoutons.
Bonjour.
Bonjour Madame Cadette.
Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ben moi je vous appelle parce que par rapport aux adolescents, on n'a pas de méthode, on n'a pas de moyens, on ne sait même pas comment se comporter, on n'a pas d'astuces. Quelque chose qu'on met en place, souvent ça ne prend pas. C'est vraiment inquiétant et c'est difficile, surtout quand ils ont 14 ans, 14 ans et demi, qu'ils font 1m75, c'est un peu compliqué pour les parents. Voilà.
Allez-y, docteur.
Oui, bonjour Madame Cadette. Ce que vous dites est vrai, mais vous croyez que vous n'avez pas d'impact, mais tout ce que vous dites, c'est quand même des graines que vous plantez. Et les fruits, on les retrouve 2-3 ans plus tard. Donc, il ne faut vraiment pas désespérer. Il faut continuer à dire le bien, le mal, à s'assurer évidemment de leur sécurité physique. Hein, c'est d'abord ça. Leur sécurité aussi morale. Mais il faut croire en soi et croire en eux. Je veux dire par là qu'il ne faut pas se décourager. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est une période de turbulence, mais qui ne dure pas non plus des années et des années. Donc, il faut tenir bon. C'est comme une tempête. Il faut vraiment tenir bon, croire en soi, croire en eux et continuer ses principes éducatifs. Si on est convaincu, ça finit par porter ses fruits. L'important, c'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes bienveillants, honnêtes, droits, travailleurs, bien dans leur peau. Et donc, il faut pas se décourager parce qu'effectivement, ils vont faire une ou deux bêtises et qu'on a l'impression qu'ils n'entendent pas ce qu'on dit.
Mais à quel moment ça s'arrête? À quel moment?
Parce que nous, parents... À quel moment ça s'arrête? Alors, à quel âge commence l'adolescence et à quel âge ça se termine, docteur?
Voilà.
Eh bien, madame, plus ça commence tôt, plus ça termine tôt, heureusement. Ça commence vraiment avec l'adolescence, on va dire vers 11-12 ans, un peu plus tôt chez les filles que chez les garçons. Et on peut dire qu'on est un peu tranquille à partir de Oh, on va dire 20 ans. Mais vous savez, par rapport à toute une vie, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis, c'est rassurant de voir qu'ils ont encore besoin de nous. Mais c'est vrai que le plus dur est pour la fin. C'est-à-dire que les petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis.
Est-ce que changer de quartier peut influencer l'éducation aussi des enfants ?
Ah oui, bien sûr. Oui,
changer
bien sûr.
Changer d'environnement, de quartier.
Oui, ça joue beaucoup. Et alors, c'est vrai qu'il faut... Alors, évidemment, on a en tête les mauvaises influences, mais on a moins en tête que parfois certains ados sont très embêtés par les autres. Et les problèmes de harcèlement, si on ne va pas les chercher, on ne les trouve pas forcément.
C'est ce que je vois, parce que j'ai donné une bonne éducation, mais aujourd'hui, tout part en vrille, comme si je n'avais rien fait, quoi.
Mais rassurez-vous, si vous avez donné une bonne éducation, ça va revenir, je vous le promets. Ça va revenir.
Je pleure.
Alors, en fait, je pense que ce qu'elle doit faire, c'est maintenir le lien.
Oui.
Et continuer de parler, de communiquer avec ses enfants.
Tout à fait. Et vraiment, si l'enfance s'est bien passée, c'est quand même bon signe. Ça va revenir. Ça va revenir. Tenez bon, ne vous découragez pas. C'est un peu normal qu'à ces âges-là, ils fassent tout le contraire. Il faut reprendre l'éducation. C'est vraiment comme si tout revenait à zéro, mais comme ça, ce qui n'a pas été bien mis en place va se remettre bien en place. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont un peu échappé quand ils étaient petits et que vous allez pouvoir là remettre en place. Ne vous découragez surtout pas et faites-vous aider par vos amis ou vos parents.
Ok.
Merci Madame Cadette pour votre question. On vous souhaite beaucoup de courage. On vous embrasse beaucoup. Et on embrasse toute la famille.
Oui, merci, et à très bientôt.
Merci beaucoup. Alors, il y a un autre auditeur au téléphone, un docteur, c'est Ousmane. Le complexe d'Oedipe est dû à quoi Alors, est-ce que... Ousmane ?
Oui.
C'est bonjour. Votre question, hein, c'est ça ?
Oui.
Allez-y docteur, on vous écoute.
Eh bien, quand l'enfant est petit, les personnes les plus importantes pour lui sont a priori ses parents, si ce sont ses parents qui s'occupent de lui. Donc, il découvre l'amour avec eux et il s'attache fortement à son père ou à sa mère, si ce sont eux qui l'élèvent. Et ce sont les premières personnes qui l'aiment. Mais après, il va comprendre le lien intime qui unit, par exemple, ses deux parents. Et il va vouloir un peu se mettre un peu en rivalité. Il va vouloir aimer maman comme papa ou elle va vouloir aimer papa comme maman. Et il ou elle va devoir comprendre que, eh bien, il y a des formes d'amour différentes. Et que aimer sa mère, c'est pas comme aimer sa femme. Et que aimer son père, c'est pas comme aimer son mari. Donc, c'est en fait l'apprentissage des modes d'amour différents. Et accepter, eh bien, de pas être en couple avec maman ou de pas être en couple avec papa pour ensuite trouver une femme ou un mari. Et c'est parfois des renoncements un petit peu difficiles pour le petit enfant, mais aussi à l'adolescence, ça peut un peu revenir. Et on voit par exemple des garçons qui vivent sans leur papa et qui se prennent un peu pour le petit mari de leur mère.
Donc,
faut les calmer de ce côté-là et leur dire
d'aller voir.
Chacun sa place, exactement. Et qu'il n'est pas, le chef à la maison et il faudra qu'il se trouve une femme en dehors de la famille. C'est pour résumer, c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que parfois, il y a dans la majorité des cas, ça se passe bien. Mais parfois, il y a des petits soucis. Hein. Il y a vraiment parfois des garçons ou des filles qui n'arrivent pas à se décoller de leurs parents.
C'est l'inceste, donc, docteur.
Alors là, l'inceste, c'est un grand mot. C'est heureusement quelque chose de rare. L'inceste, c'est quelque chose dans la réalité. C'est-à-dire, ce sont de vraies relations physiques entre un parent et un enfant. Donc, c'est quelque chose, évidemment, de grave. Là, on est juste au niveau des sentiments. On n'est pas au niveau
des actes.
Hein. Donc, c'est très...
Ça entraîne à l'inceste, à peu près, le complexe d'Oedipe. Ça peut pousser à l'inceste.
Ça pourrait, si oui, dans le pire des cas, mais l'inceste, ce serait des parents qui seraient perturbés psychologiquement et qui se laisseraient aller à des relations. Mais ça vient a priori plus des parents que de l'enfant.
Merci Ousmane pour votre appel.
De rien.
À très bientôt, merci beaucoup pour votre question. Alors justement, est-ce qu'à l'inverse, lorsque l'on surprotège son enfant et qu'on est constamment sur son dos, qu'on est tout le temps en train de lui poser des questions, etc., est-ce que ça peut créer également des déséquilibres pendant leur adolescence ?
Alors, si effectivement on est très très surprotecteur et qu'on continue de l'être au début de l'adolescence, eh bien ça risque de faire des adolescents soit qui restent petits, qui n'osent pas aller vers les autres, qui restent pas sûrs d'eux, ou alors, à l'inverse, des adolescents, justement, qui vont faire une crise très bruyante pour pouvoir se décoller. Parce que plus ils sont collés aux parents, plus ils vont devoir libérer de l'énergie pour se décoller et donc faire mille et une bêtises, mille et un cris pour se décoller. C'est pour ça qu'au moment de l'adolescence, il faut se reculer un petit peu, pas rester trop collé pour leur laisser un petit peu d'air, parce que sinon, ils vont faire trop de bruit, trop d'explosions. Maintenant, avec les petits, c'est bien de les surprotéger.
Ouais.
Je trouve qu'on a un peu tendance à pas assez les surprotéger petits. On les colle, on n'a pas le choix parfois,
dans
mais à des
écrans,
nounous.
Ouais.
Oui, les petits, il faut être près d'eux. Et plus ils grandissent, plus on recule d'un pas. On est vigilant, mais à distance. Mais encore une fois, avec les petits, c'est bien de rester. Ils ont besoin de surprotection, les petits. N'oublions
Alors,
pas.
On va parler d'estime de soi. C'est très important. Il ne reste pas beaucoup de temps. Un élève sur cinq déclare ne pas être satisfait de sa vie. Alors, c'est une autre question que nous avons abordée avec les jeunes de la maison d'Aubervilliers. On les écoute et on se retrouve juste après.
C'est pas facile tous les jours. Il y a des fois où je me sens super bien, je me réveille, je me dis j'ai 16 ans, je profite de la vie, tout ça. Mais il y a des fois où je me dis punaise, j'ai trop de responsabilités, c'est dur à encaisser, tout ça.
La vie de tous les jours, ça va, c'est pas trop facile, mais ça va. Vu que je suis une fille, il y a des petites difficultés, mais ça va. Mon corps, il s'est développé. Du coup, des fois, je me sens pas trop bien. Quand j'ai mes règles, par exemple, du coup, je fais rien, je sors pas.
On veut travailler, on nous prend pour des enfants. On nous prend pour pas assez responsables.
Des fois qu'on a confiance en soi de fou, genre les gens, ils ont l'impression qu'on est narcissique ou des trucs comme ça. Alors que pas vraiment. Au moment où tu te donnes les chances et que tu te dis oui, moi, je suis capable de ça, tu peux tout avoir. C'est important. Parce que si on n'a pas d'estime de soi, comment on veut que les autres aient une estime de nous? La confiance en soi, c'est grave important. C'est franchement, il y a des jours où j'ai vraiment pas confiance en moi et j'échoue.
Non, quand même, j'ai confiance en moi. C'est juste que je suis stressée quand même de base, naturellement. Par exemple, des fois, j'ai les réponses en classe, mais je les dis pas parce que je sais pas, j'ai trop peur de parler. Et c'est rien, pourtant, c'est rien.
Alors docteur, en quelques mots rapidement, parce qu'il y a un autre auditeur qui voulait intervenir, comment les aider à développer leur confiance en eux?
Eh bien, leur faisant des compliments, justifiés ou pas forcément justifiés. Mais c'est vrai que les compliments des parents souvent sont moins bien acceptés que les compliments des autres. Donc faut leur rapporter des compliments en disant « Tiens, j'ai vu un tel, il m'a dit du bien de toi ». Pas faire des compliments que sur le physique pour les filles notamment. On a
Merci,
un peu trop tendance à les valoriser que sur leur beauté, même si elles sont belles. Il faut les valoriser sur leur intelligence, sur leur humour, sur différents traits de caractère. Et puis s'arranger pour qu'ils fassent des activités où ils peuvent réussir. Si par exemple ils sont en difficulté à l'école, c'est bien de les inscrire dans des domaines où ils peuvent réussir pour pouvoir se valoriser. C'est important de les valoriser. On les valorise pas assez. Maintenant, le fait qu'ils soient pas très sûr d'eux à l'adolescence, j'allais dire tant mieux, parce que sinon ils auraient rien envie d'apprendre et ils auraient pas envie d'évoluer et ils resteraient adolescents. Donc c'est bien aussi que le manque de confiance en soi soit un moteur pour développer leurs compétences et devenir des adultes plus savants et plus compétents encore.
Alors il y a Sako qui intervenait par rapport à ce que disait Madame Cadette. Alors il dit, elle semble découragée. Je voulais dire qu'il faut parler aussi nos langues traditionnelles à nos enfants. Ils vont rester avec nous. Sako, on pourra pas vous entendre, mais la question est posée. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Sako rapidement?
Le bilinguisme, le fait d'avoir comme ça deux langues, ça développe l'intelligence. Donc plus on a de langues, plus c'est bon pour l'intelligence. Donc oui, bien sûr.
Et pour maintenir le lien.
Et en plus, maintenir le lien, effectivement, avec une famille, ça, c'est évidemment très important. Vous savez, à l'adolescence, ils veulent se décoller et à la fois, ils veulent être rassurés par des racines. Donc, on cultive les racines, on les coupe surtout pas et à la fois, on les oriente vers le futur, vers des choses nouvelles.
Alors, il y a Charles qui dit « J'ai un neveu qui est perturbé totalement, il est majeur, il s'est mis à voler, c'est ça Charles? Il reste pas beaucoup de temps, allez-y vite, s'il vous plaît. »
Il n'est pas majeur.
Il est mineur. D'accord.
Il est mineur. Cet enfant-là est complètement perturbé. Ses parents ne vivent plus ensemble. Et voilà, cet enfant, il vole. Il ment.
Qu'est-ce que vous voulez dire à ce tonton qui est très inquiet par rapport à...
Qu'il a raison. Le fait parfois d'avoir des conduites délinquantes, c'est juste pour attirer l'attention, pour qu'on s'occupe de lui. C'est un appel à l'aide. Il fait des conneries parce que quand il fait des conneries, on s'occupe de lui. Et donc, du coup, effectivement, il a besoin d'adultes bienveillants et vaudrait mieux que ce soit des gens de la famille plutôt que les gens de la police ou de la justice qui l'élèvent.
Et vous, par exemple, en tant que tonton Charles? Merci pour votre appel. Malheureusement, il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission?
Gardez confiance et gardez patience.
Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir été disponible ce matin pour nos auditeurs. Stéphane Clerget, je rappelle également que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Les vampires psychiques, séparés aux éditions Fayard en février 2018. Merci beaucoup.
Merci.
9h54 sur la radio africaine. C'est le moment de marquer la pause. On se retrouve juste après pour la suite d'Ambiance Africa. Bougez pas.